Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Si les voyages touristiques au désert connaissent un succès certain auprès des Occidentaux, vivre au désert ou en traverser un est une toute autre aventure. C'est certainement ce dont pourrait nous témoigner mon invité de ce matin vivant dans le sud-ouest de la France, une vie en partie érémitique. Le Père Play connaît bien le désert et ses combats. Aussi, en ce presque début de carême, je vous propose qu'il nous serve de guide. Lui qui s'est mis à l'école d'un peuple tout entier, les Hébreux, ce peuple qui, selon l'Ancien Testament, a traversé un long et terrible désert, et ce pendant 40 ans, le désert, lieu de la mort ou de la vie. Les Hébreux au désert, c'est donc le thème tout simplement de l'émission Vivante Église de ce matin avec vous, Philippe Play. Vous êtes prêtre religieux passionniste et auteur donc d'un ouvrage intitulé Les Hébreux au désert, lecture du livre de l'Exode, paru aux éditions Salvator. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Vous venez de l'Aude, donc d'un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame du Cross, ou Cross, on dit Cross ?
On dit Cross, dans le sud.
Notre-Dame du Cross. Alors commençons par peut-être parler un petit peu de vous. Vous êtes de temps en temps l'invité de Nathalie Cardon. Vous étiez venu aussi à cette même antenne, je crois que c'était il y a 3 ans, pour un autre livre. Dites-nous, quand je vous introduis en disant que vous avez une vie semi-érémitique, que vous êtes dans un sanctuaire, expliquez-nous à quoi ressemble votre vie.
Alors, je suis religieux passionniste et selon le charisme historique de notre fondateur, nos maisons sont appelées des retraites. Elles sont à l'écart. Et Notre-Dame du Cross, c'est le cas. On est vraiment en pleine nature là-bas, une chapelle perdue dans la forêt. Et le désert, c'est ça. C'est pas seulement un lieu infécond, c'est un lieu où, isolé. C'est là que Saint Paul de la Croix, mon fondateur, voulait que les religieux se ressourcent continuellement pour, comme les Hébreux au désert dont nous allons parler justement. Et là, il y a un sanctuaire marial. Donc, et Marie, elle est toute accueillante et les gens viennent de l'extérieur. Ça rejoint ce qui se passait dans l'Antiquité à la naissance de l'érémitisme. Les moines allaient au désert et des foules accouraient pour leur rendre visite. Et on voit même dans les apophthegmes que certains se plaignent parce que c'est eux qui recevaient.
Les apophthegmes, c'est les récits des pères du désert, c'est ça ?
Ouais, c'est leur maxime et quelques témoignages. Et il y a des témoignages, justement, ces plaintes. Il y a trop de gens qui passent, ils étaient obligés de les accueillir, il n'y avait pas d'hôtellerie. Donc, que les gens viennent au désert, ce n'est pas étonnant. Maintenant, y rester, s'y faire éduquer, c'est autre chose. C'est tout le thème de ce livre que nous présentons.
Alors, allons-y, on va s'y plonger, justement, en ce presque début de carême. On entame la deuxième semaine du carême 2020. Si on se plonge dans votre introduction, tout simplement, votre livre est relativement facile à suivre, en ce sens qu'il prend donc le même chemin qu'un peuple, et puis vous suivez l'écriture. Ce peuple, c'est donc le peuple hébreu. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Alors, la première chose que vous dites, c'est qu'il faudrait que chacun on sorte d'Égypte, c'est-à-dire du monde profane, pour se laisser façonner au désert. Qu'est-ce à dire ?
C'est bien le thème du livre de l'Exode. C'est un texte qui fascine, hein, la vie de Moïse. Mais la vie de Moïse ne s'arrête pas à lui-même et il y a toute son histoire. Et Dieu va le faire vivre en Égypte, ce Moïse, et il va l'en faire sortir. Et ensuite, il aura l'expérience de Dieu. Il faut sortir de l'Égypte. L'Égypte, ça représente la société humaine fermée à la transcendance. Les fenêtres sont ouvertes uniquement sur la matérialité. De tout temps, l'homme est stressé, il a besoin de gagner sa vie, il a besoin de travailler, il a besoin de fonder une famille, etc. L'homme est pressé par nature. Le désert, c'est tout le contraire, c'est prendre son temps, et c'est là tout le thème de la prière. On prend son temps et on ouvre ses yeux à autre chose que ce qui passe rapidement, comme dans la fenêtre d'un train, un paysage qui passe trop vite, ça c'est l'Égypte. Et oui, il faut sortir de l'Égypte, c'est le grand message du livre de l'Exode. l'Exode, c'est la grande vocation de Moïse que de faire franchir cette frontière. C'est la grande question, hein. Quel est le sens de la vie? Est-ce que notre vie s'arrête là, ici-bas, ou alors est-ce qu'il y a autre chose derrière, l'éternité? Nous, chrétiens, nous savons qu'il y a quelque chose derrière.
Alors, vous prenez un exemple à propos de l'Égypte. Vous dites, l'Égypte, c'est l'homme déifié. Et à vous lire, on peut faire donc bien des parallèles avec l'époque contemporaine. Vous avez d'ailleurs des mots assez durs à ce sujet. Je ne les retrouve pas là tout de suite, mais vous laissez entendre que le monde contemporain, c'est donc celui de l'homme déifié, et c'est celui où la vérité n'a pas de place, ou alors une forme de totalitarisme à propos de la vérité, oui. Aujourd'hui, il y a une façon quasi totalitaire, une idéologie athée qui est quasi totalitaire.
C'est exact. On vit pas dans un monde qui est ouvert, qui est libre. On s'en rend compte petit à petit. Il y a un grand combat. On est sur un grand champ de bataille en quelque sorte entre lumière et ténèbres. Et c'est pas du tout la paix entre les deux. C'est pas du tout deux nations tranquillement qui se côtoient paisiblement. C'est chacune veut tirer les âmes de son côté. Et oui, il y a quelque chose de profondément totalitaire dans le matérialisme. Et pas dans la spiritualité, mais dans le matérialisme, parce qu'il se ferme sur lui-même, sur sa logique. Et au centre, c'est le culte de l'homme, quoi. Et un homme qui n'est pas l'homme de chair, c'est un idéal. C'est une idée. Tandis que l'homme de chair, lui, il pâtit souvent dans les sociétés matérialistes des inégalités, des duretés.
Est-ce que vous auriez un exemple qui vous revient en tête parmi tous les pèlerins que vous voyez défiler au sanctuaire Notre-Dame-du-Cross, sans donner un nom, mais peut-être un visage qui vous revient et qui pour vous est caractéristique de ce chemin qu'on a à accomplir ou de ce totalitarisme dans lequel on serait?
Beaucoup de gens qui sont en quête de sens. Et qui sont malheureux parce qu'ils trouvent pas le grand amour qui va leur permettre d'unifier leur vie. Je pense des hommes, des femmes qui n'arrivent même pas à conclure des alliances stables avec un partenaire, qui rêvent de le faire, qui n'y parviennent pas, qui viennent supplier la Vierge Marie de les aider à fonder une famille, par exemple. Et tout ça, c'est parce que nos comportements nous éloignent de ce qui ferait la fermeté d'une alliance. Nos valeurs, finalement, nous empêchent d'aimer comme il convient, de nous donner comme il convient à travers l'amour. Alors si on ne peut pas le faire à travers les créatures, alors que ça nous est que naturel, on est fait pour ça, comment le faire avec Dieu qui est l'amour absolu, c'est un itinéraire encore plus grand. Il y a aussi des gens qui sont attaqués par les ténèbres. Il y a des vies qui sont brisées par des traumatismes, mais qui ne sont pas seulement psychologiques. On parle beaucoup de la pédophilie, par exemple.
Vous avez des exemples là aussi? C'est quoi? C'est des gens qui sont...
Des gens qui ont été agressés quand ils étaient enfants.
Mais quand vous laissez entendre que ça peut être d'un autre ordre, ça veut dire quoi?
Souvent Satan. Il y a souvent des phénomènes surnaturels, négatifs, et ils viennent chercher au désert. Sortir de ce monde, c'est sortir des ténèbres, c'est ce que je veux dire, vous voyez. On vit dans un monde, on voit pas l'invisible souvent parce que nos yeux sont pas ouverts dessus, mais il est pas seulement lumineux, il est très ténébreux, il peut être ténébreux, diabolique. Et le monde d'Égypte, c'est ça, en fait. C'est un monde dans lequel on étouffe, qui nous porte pas du tout vers la vie, qui nous porte pas du tout vers Dieu. C'est un monde qui nous met en mouvement à travers les passions, à travers les appétits. On court par les appétits, la chair, les objets matériels, le sexe, tout plaisir en tout genre, la vanité, le paraître, parce qu'on est inconsistant, donc on veut paraître pour au moins avoir l'illusion d'être quelque chose. On court après des tas de choses et on ne trouve rien. Et ce qu'on devrait trouver, c'est la vie. C'est ce bonheur que la vie procure, que l'exercice de la vie procure, l'équilibre.
Alors au désert, toujours dans votre introduction, vous laissez entendre qu'il y a des grandes étapes. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. On s'arrêtera sur quelques-uns des chapitres que vous abordez dans le récit qui est fait dans l'Ancien Testament, donc des Hébreux au désert. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des grandes étapes? J'ai cru comprendre que vous en dénombriez 5, alors peut-être qu'il vous en revient moins. Quels sont les grands mouvements mouvement dans le désert. En gros, à quoi faut-il s'attendre si on met ses pas dans ceux des Hébreux?
Déjà, il y a des étapes de Moïse. Je dirais, Moïse, sa vie est découpée dans l'Exode, dans les Nombres aussi, en trois parties totalement symétriques, de fait de 40 ans chacune. Il serait mort à 120 ans. Donc la première, il va naître en Égypte comme un esclave, et immédiatement, on sait bien, il est libéré parce qu'il est adopté par la fille de Pharaon. Et il est élevé comme un Égyptien aristocrate, donc dans le bien-être, mais en même temps dans ce matérialisme, dans ce culte de l'homme, parce que l'Égypte, c'est vraiment le culte de l'homme. Pharaon en est l'expression, c'est un dieu vivant, et les dieux sont là autour de lui pour le déifier. Et c'est seulement à la fin de ces 40 ans d'Égyptien, d'Égypte, qu'il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Et là, il se retourne vers les Hébreux, son peuple d'origine. Et là, il essaye de les libérer une première fois, et il échoue et il doit fuir. Sa seconde vie, c'est la fuite. Ça le conduit à Madian, au nord de la péninsule arabique.
On n'est pas chez les Hébreux, là, en l'occurrence.
On a quitté l'Égypte. Et là, il va vivre 40 ans et il va se marier. Vous voyez, en Égypte, il ne s'est pas marié. Il n'a pas trouvé le bonheur. Là, il commence à se construire, en quelque sorte, notre Moïse. Dieu commence à le construire dans sa providence. Et il épouse la femme du grand prêtre local, à Madian. Et c'est seulement à la fin de cette seconde vie de Moïse qu'il va avoir connaître Dieu, le rencontrer. C'est l'épisode du buisson ardent sur l'Horeb. Et il reçoit alors la mission de faire sortir les Hébreux de l'Égypte. Et là, il devient, pendant 40 ans, le guide la lumière tangible, le prophète. Alors, il va les conduire à travers des étapes. Et les étapes du désert, là, je ne me souviens plus à laquelle vous faites référence.
J'aurais une autre question dans ces cas-là, parce qu'on a compris déjà les grandes étapes de la vie de Moïse, donc on peut imaginer, du coup, le désert, je vous propose, on y viendra dans la deuxième partie. Vous dites au sujet de Moïse qu'il y a une profonde curiosité chez Moïse. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une bonne et une mauvaise curiosité, mais est-ce que ça peut nous sauver, ça peut sauver ceux qui cherchent et qui écouteraient cette émission? Est-ce que la curiosité peut finir par nous amener petit à petit justement à chercher la vérité, à finir par être conduit dans ce désert?
Ça devrait, on est fait pour ça. On a été créé par Dieu et on est fait pour rechercher la vérité. Et la curiosité qui consiste à rechercher la vérité au-delà des vérités qui nous sont proposées quotidiennement dans ces sociétés matérialistes dans lesquelles nous sommes immergés, ça c'est une bonne curiosité, bien évidemment. Il y a les mauvaises, c'est d'aller voir toutes les voies sans issue qui d'ailleurs nous sont, il y a des panneaux partout dans le monde dans lequel on vit qui nous indiquent ces directions-là, tout en nous disant c'est réservé, mais les vices, quoi, en quelque sorte. Non, la bonne curiosité, c'est Moïse, par exemple, un exemple de curiosité, ça, quand il est égyptien, il aurait pu se contenter de son confort. Eh bien, il y a quelque chose qui lui manque, il va aller voir ces Hébreux qui sont des esclaves.
Qu'il n'a pas vu pendant longtemps.
Il voyait juste sa famille, parce qu'il a été sa nourrice, c'était sa mère. C'est comme ça que Dieu, dans sa providence, n'a pas coupé le lien. Il a permis à Moïse de savoir qui il était. Mais il ne s'est jamais intéressé à eux, pour dire la vérité. Il a fallu qu'il attende sa 40e année pour s'y intéresser. Mais c'est sa curiosité, justement. Et il sait aller voir des esclaves. Et ensuite, il arrive, il va faire paître le troupeau, mais pas comme tous les pasteurs, quand il est à Madian, il fait paître les troupeaux de son beau-père. Mais il va au-delà du désert, nous dit le texte. C'est-à-dire, le désert, bon, c'est là où vont tous les pâtres de l'époque. Lui. Au-delà du désert, c'est aller dans un endroit où personne ne va. C'est dans le désert, mais c'est au-delà. C'est sa curiosité. Et ça le mène à l'Horeb. Il voit le buisson qui brûle sans se consumer, etc. Et pareil pour Dieu, plus tard, sur le Sinaï. Il ne se contente pas de recevoir les tables de la loi. Sa curiosité, il le demande à Dieu. « Je voudrais te voir. »
Jusqu'à lui demander de le voir face à face.
Ça, c'est la bonne curiosité. Et on voit, elle nous mène étape par étape. Dieu donne pas tout de suite la récompense ultime, mais si on est fidèle à cette curiosité qui n'est rien d'autre que la recherche de la vérité, Dieu finalement nous montre son mystère et sa lumière.
Alors Père Philippe Lé, avant qu'on fasse une première pause, si on met nos pas dans le saut du peuple hébreu et donc dans les pas de Moïse, vous laissez entendre qu'on est tous appelés à devenir d'autres Moïse. Ça peut paraître intimidant, voire effrayant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On ne peut pas juste être un croyant lambda. Le but, c'est de devenir d'autres Moïse.
Alors si on était né à l'époque de l'Ancienne Alliance, avant Jésus-Christ, on pourrait pas être, on pourrait exceptionnellement, il y a eu quelques prophètes, Élie par exemple, qui a rivalisé avec Moïse, mais il fallait attendre Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ, ça devient une obligation. Ce qui était réservé à quelques-uns dans l'Ancien Testament, parce qu'ils étaient là pour guider les autres, donc il y a une exemplarité, ils devaient franchir une porte eux-mêmes, eh bien, Jésus nous permet d'être tous en relation avec Dieu, de faire ce que Moïse a fait, de participer à la libération de nos frères, à la libération des âmes, en indiquant ce qui est néfaste dans les valeurs du monde totalement matérialiste, qui résiste à Dieu, et montrant le chemin de la lumière, être des guides comme Moïse, ça se fait, un chrétien, c'est sa vocation, et puis enfin voir Dieu. On a ce pouvoir. Dans l'Ancien Testament, c'est dit dans le récit, le peuple reste au pied de la montagne tout tremblant, car voir Dieu, c'est mourir. Tandis que grâce à Jésus-Christ, eh bien, on peut voir Dieu, et c'est même un devoir de voir Dieu.
Les Hébreux au désert, lecture du livre de l'Exode, c'est donc le titre de votre livre paru aux éditions Salvator. On fait une première pause musicale et puis on va rentrer dans le désert, peut-être pas toutes les étapes du désert, mais quelques-unes qui vont nous parler des grâces des débuts que l'on peut vivre dans la vie chrétienne, de la prière et du combat spirituel.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les Hébreux au désert, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes, pour ceux qui nous rejoindraient, avec Philippe Lé, qui est prêtre religieux passionniste et auteur donc d'un livre du même nom, ou plutôt le titre de l'émission, comme souvent, est du même nom que son livre, Les Hébreux au désert, mais avec ce sous-titre, Lecture du livre de l'Exode, paru aux éditions Salvator. Alors après avoir vu, Père Philippe Lé, donc cet appel au désert, en fait, qui est lancé à chaque croyant, qui peut faire peur. Hein. Je rappelle, vous aviez des mots forts. Hein. Vous disiez qu'il faut sortir aussi d'une forme de totalitarisme qui est celle de l'idéologie athée dans le monde occidental. Quand on se décide à rentrer au désert, il y a un certain nombre d'étapes. En tout cas, c'est des étapes qu'a vécu le peuple hébreu. On ne va pas s'arrêter sur toutes les étapes. Je vous propose d'en choisir quelques-unes. Je commencerai donc par l'un des premiers chapitres, l'eau de Mara. Alors à chaque fois, je vous propose de vous rappeler ce qu'est l'épisode, et puis ce qu'il nous dit. Ce que j'ai compris des eaux de Mara, c'est que c'est l'amertume des débuts, mais il faut, entre guillemets, il faut s'y faire.
Exactement. Alors c'est un itinéraire de foi. J'ai toujours été fasciné par par la vie de Moïse, bien sûr, en Égypte et la sortie de l'Égypte, mais l'itinéraire du désert. Et ça commence parce qu'il y a le contraire d'une récompense. Il tombe dans la première halte, une oasis où l'eau est amère. On ne peut pas la boire. Mara, ça veut dire amère. Et Moïse doit jeter un morceau de bois pour la rendre plus suave, buvable. C'est un itinéraire de foi. Ça veut dire l'eau, c'est un symbole des valeurs spirituelles, des valeurs de l'esprit en général dans la Bible. Ça veut dire que ce Dieu, on passe en Égypte, on a des cultes, une idolâtrie, quoi, des cultes idolâtriques, mais qui sont des forces de la nature, des choses, des dieux qui sont proches de nous, qui répondent à nos attentes. Tandis que là, la foi que Moïse inaugure, qu'il veut enseigner aux croyants, c'est une foi qui dépasse complètement cet horizon quotidien qui est le nôtre. Et paradoxalement, on a du mal à rentrer dans un tel cheminement. C'est un Dieu transcendant. Il veut nous indiquer une transcendance, un au-delà du monde. Or, on a vécu, quand on est en Égypte, quand on sort de l'Égypte, on a vécu immergé dans le monde avec ses valeurs qui lui sont propres.
Juste, il y a un détail, c'est qu'ils marchèrent 3 jours. Je disais que beaucoup d'Occidentaux aiment aller au désert. Alors certains y vont et marchent de manière relativement conséquente au désert. Ils font même parfois des retraites. Et quand on fait une retraite au désert, on dit souvent que le troisième jour, c'est le jour difficile. Alors si on doit faire un parallèle avec nos vies, qu'est-ce que ça veut dire ce jour difficile? C'est quoi?
Il y a effectivement le début de la retraite est un peu aride parce qu'il faut sortir de soi. Et sortir de l'Égypte, c'est sortir de soi-même en quelque sorte, et pour s'ouvrir à ce mystère que le désert, dans son indifférenciation, dans sa majesté, dans son immensité, nous rend présent, mais en même temps sans nous le communiquer directement, il faut faire l'effort de sortir de soi pour s'ouvrir à cette vision. Alors les 3 jours dans nos vies, ça répond par exemple à une sorte de résurrection. En quelque sorte, on passe de la mort à la vie, c'est le passage de l'Égypte, le passage à travers la mer Rouge.
C'est le jour de la sécheresse, vous dites, le troisième jour. Souvent, on s'extasie, on trouve le désert très beau, et puis le troisième jour, on est un peu...
on peine, parce qu'il y a cette sortie de soi qu'on doit faire absolument. Alors l'eau du désert devient amère à ce moment-là. Et c'est seulement lorsqu'on patiente, lorsqu'on persévère, c'est la première leçon du désert, il faut persévérer dans la prière, dans la méditation du mystère divin, dans cette dans cette ligne, dans cette route vers la transcendance qui est tracée devant nous.
Alors vous dites aussi, en parlant de probablement des gens qui viennent vous voir aussi, ou des personnes que vous accompagnez peut-être spirituellement, que c'est parfois aussi la réalité pour des jeunes convertis. Tout d'un coup, on découvre d'autres réalités, par exemple la morale du mariage, qu'il est difficile d'arriver à mener d'un même front la vie spirituelle et puis le vagabondage sexuel. Si on avance, il y a une autre étape qui s'appelle donc l'oasis d'Élim. On est toujours dans le livre de l'Exode. Et alors là, on a l'impression qu'après la sécheresse succède au contraire la profusion. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est les grâces du début. Après la sécheresse, Dieu donne des bonbons pour la route ?
Au début, c'est une sorte d'alternance entre grâce et sécheresse, en quelque sorte.
C'est chaud-froid.
Voilà, on prend l'aliment et la digestion, alors dans la bouche, comme dit Ézéchiel, par exemple, le petit livre, celui de la prophétie, celui de la révélation, est doux comme le miel, mais dans la digestion, il est amer aux entrailles. La sortie d'Égypte, c'est la grâce de la sortie, c'est merveilleux, on voit les grands exploits de Dieu. On tombe à Mara, c'est la digestion. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans un désert et non pas tout de suite qu'on débouche au paradis. Quand on est patient, on mérite d'arriver à la seconde étape qui, alors là, il y a 12 sources et 70 palmiers à Élim. C'est une autre oasis, mais qui est tout le contraire. Et c'est un beau symbolisme, là, ça veut dire qu'on rentre on rentre un peu dans le mystère déjà. 12 sources, ça fait penser aux 12 apôtres. C'est donc l'Église. 70, c'est les disciples qui sont envoyés en mission. C'est un chiffre qui nous parle donc.
Qu'est-ce que c'est ? C'est les grâces du début, comme on dit ?
Oui, les grâces du début. On rentre dans la perspective de la foi chrétienne. On commence à découvrir vraiment le mystère de Dieu et on fait confiance à l'Église. Au début, à Mara.
On reçoit aussi ce qu'on appelle les grâces sensibles, c'est ça ?
Ah oui, également les.
On sent la présence de Dieu, on la goûte.
Voilà, exactement. On passe de la théorie à un contact vivant déjà. Mais ce n'est pas encore Dieu, mais ce sont les grâces de Dieu, c'est le confort que Dieu donne. Comment expliquer ça ?
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas encore Dieu ?
Mais c'est pas encore Dieu, c'est pas la manifestation de Dieu sur le Sinaï, vers laquelle on tend. Mais c'est toutes ces grâces qui ponctuent le chemin vers le Sinaï, vers la vision, et qui nous montrent que Dieu est là. Et par ses gestes, il est invisible, mais on sent qu'il est là à cause de ces grâces qu'il nous donne. Ça peut être des grâces de joie intérieure, des grâces de une chose qu'on comprend du mystère divin ou sur la vie humaine éclairée par la révélation. C'est des problèmes psychologiques qu'on parvient à résoudre par le fait qu'on marche vers un dépassement de soi. Et souvent, nos problèmes psychologiques, c'est lié au fait qu'on s'enlise dans son ego. Et donc, les problèmes psychologiques qui ne sont pas des pathologies, mais qui sont simplement un mauvais positionnement par rapport à la vérité de notre être, sont résolus par la foi.
Alors, en avance, je vous propose, maintenant, on va d'une certaine manière parler de la prière, après les grâces du début. Si on suit vos chapitres, là, on les suit, page après page, en ce sens qu'on cite les chapitres qui se suivent directement, et donc les passages de l'écriture, c'est donc dans le désert les cailles et la manne. Alors vous faites un parallèle entre ce qui arrive aux Hébreux, donc des cailles qui sont données et de la manne, je vous ai laissé expliquer, et la prière, expliquez-nous.
À nouveau, après Mara, où c'est l'amertume, la mauvaise surprise, eh bien là il y a une autre épreuve, c'est la faim. Alors ils marchent au désert et ils n'ont pas assez confiance en Dieu, donc ils commencent à protester, et le croyant comme ça proteste vite, on dit que Dieu m'a laissé tomber, quoi, il ne pense plus à moi. Et Dieu est là, toujours dans sa providence. Alors, l'écaille, c'est une, un merveilleux miracle, mais qui n'arrive que deux fois dans le récit de l'Exode.
En l'occurrence, il y en a beaucoup, non? C'est des...
Ah, il y en a énormément.
Des
là.
Milliers, des milliers.
C'est... Là, Dieu enfonce le clou, il leur fait manger jusqu'à l'indigestion pour qu'ils comprennent bien que ces désirs-là terrestres sont pas quand même... c'est pas le salut de l'âme, quoi. C'est... Dans l'Ancien Testament, on croyait que, comme les protestants aujourd'hui d'ailleurs, ils ont gardé ça de l'Ancien Testament, qu'on est élu dans la mesure où Dieu nous comble matériellement. Hein. Mais Jésus lui a dit, c'est pas comme ça que ça marche, c'est la croix, c'est la passion, ça veut pas dire qu'on est maudit. Hein. Mais je veux dire, la grâce de Dieu, elle est d'abord intérieure, et c'est une grâce de douceur, et c'est ce que la manne exprime. Alors la manne, elle vient du ciel, comme la rosée, parce que dans la Bible, on considère que la rosée vient du ciel, et un don de Dieu, donc une sorte de céréales célestes. Donc, il suffisait chaque matin d'aller la ramasser, mais il fallait la ramasser.
Donc il se déposait le matin sur le sol, c'est ça?
Voilà.
Okay. Il fallait se dépêcher d'aller, c'est comme une petite galette sur le sol, c'est ça?
Non, comme un petit peu de blé, quoi, répandu sur le sol, c'était des grains. Mais alors, dès que le soleil arrivait, pouf, ça fondait. Donc, avant le lever du soleil, il fallait se dépêcher d'aller en récolter. Et on ne pouvait pas en récolter davantage que ce dont on avait besoin. Parce que dès qu'on essayait d'en mettre en réserve, ça pourrissait, et les vers grouillaient et rendaient infecte la manne. Ça veut dire que chaque matin, on était obligé d'aller chercher la portion dont on avait besoin. Bah, la prière, c'est ça. On peut pas se dire, tiens, je vais vivre 7 heures de prière par jour pendant 3 ans, comme ça, ou 5 ans, et j'en aurai pour toute ma vie, et après je pourrais faire complètement autre chose et ne plus penser à Dieu. On peut pas faire ce type de calcul, on peut pas faire ce type de réserve. La prière, c'est chaque jour. Le chrétien doit prier tous les jours et il recevra ce dont il a besoin chaque jour. Il recevra pas pour le surlendemain, parce que le surlendemain, il devra prier à nouveau. C'est notre vocation. Et c'est comme ça qu'on est toujours dans une relation vivante avec Dieu. Faire des réserves, c'est sortir de cette logique de vie, de cette relation quotidienne avec Dieu. Donc la manne, c'est ça. Le grand secret de la manne, d'ailleurs, en hébreu, c'est manne ou. C'est qu'est-ce que cela? Quoi cela? Manne ou. Et donc le mot manne en français. Ça veut dire que c'est un mystère. La manne, c'est pas seulement un aliment qu'ils ont mangé pendant 40 ans, c'est aussi un mystère. Jésus parle du pain de vie pour traduire le mystère de l'Eucharistie dans son évangile, en reparlant de la manne justement. Et, c'est-à-dire qu'il passe de la manne matérielle qui nourrissait les Hébreux miraculeusement pendant 40 ans à la manne spirituelle, et il spiritualise la manne. Et la manne, ce mystère qu'il faut contempler, c'est le cœur de Jésus, c'est l'amour de Dieu inconditionnel.
Alors on avance, on saute bien des chapitres, et j'aimerais qu'on s'arrête sur un chapitre qui s'appelle donc la bataille de Réphidim contre Amalek. Les Hébreux sont attaqués donc par les Amalécites, je comprends, vous le dites explicitement, hein, c'est une métaphore du combat spirituel. Alors vous avez dit au début de l'émission qu'on peut vivre en fait ici-bas sans se rendre compte qu'on est d'une certaine manière sur un champ de bataille. Si on file cette image, quel est ce champ de bataille sur lequel on se trouve et qu'on ne voit pas, et qu'est-ce que le combat spirituel, Père Philippe Plé?
Alors le désert nous révèle véritablement ce champ de bataille. On peut ne pas le voir lorsqu'on vit en Égypte, parce qu'on est dans un camp de base d'une des deux armées, mais scène des ténèbres. Et en fait, il y a ce grand combat entre la lumière et les ténèbres. Les moines du 4e siècle de notre ère, ces chrétiens qui ont inventé la vie consacrée, la vie religieuse en Égypte, allaient au désert pour deux choses, hein. Pour purifier leur vie et rencontrer Dieu, s'ouvrir au mystère divin, et pour lutter contre les démons. étaient participaient donc à la grande bataille. Amalek représente ça, ça représente les démons, comme les Égyptiens aussi représentent les démons. Pharaon, ça représente le diable, c'est une image du diable qui veut retenir les âmes et les emprisonner, comme il emprisonnait les Hébreux. Et bien là, au désert, t'es dans un lieu où il n'y a personne, par définition. Voilà que une armée de nomades leur tombe dessus d'un seul coup. On ne peut pas, quand on va au désert, le désert, au lieu de cacher, révèle. Et il révèle le grand enjeu de la vie. Il faut choisir en cette vie. On ne peut pas rester neutre en un point médian entre Dieu et diable, entre lumière et ténèbres, entre amour et haine. Et on ne peut pas, amour et égoïsme, quoi, orgueil. On est obligé de choisir.
Alors vous avez je vous cite, hein, « Les hommes vivent souvent dans l'illusion, fut-elle spirituelle, d'un monde sans guerre, et ils s'étonnent et se scandalisent lorsque la violence éclate au grand jour. Et puis un petit peu plus loin, celui qui refuse le combat spirituel du désert est finalement voué à l'esclavage de l'Égypte. » Je reprends la parole parce que je vois le temps qui passe. J'aimerais qu'on s'arrête sur un autre chapitre avant de faire une deuxième pause musicale. Pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la vie spirituelle, donc c'est le campement au désert de Paran. J'ai cru comprendre donc de ce chapitre, de cet épisode donc du peuple hébreu, rapporté si je ne me trompe pas aussi dans le livre de l'Exode, que c'est l'heure, c'est quoi ? C'est l'heure du découragement. En tout cas, c'est l'heure de la cédille. Je me souviens d'une émission récente où on parlait de la cédille avec Monseigneur Robert Le Gall. Pour ceux qui auraient l'habitude de cette vie de prière, qui auraient passé, on va dire, les premières étapes, qui se seraient lancés dans ce combat, il y a des moments où on est pris par la tentation du découragement. Qu'est-ce que ce découragement, qu'est-ce que cet assédie, et que se vit-il au campement de Paran ?
Alors, c'est de... vous faites allusion à nouveau à la soif et puis surtout à cette nostalgie de l'Égypte. C'est ce qui se vit alors à ce moment-là.
Alors, je vais vous aider. Le campement de Paran. Dieu parla à Moïse en ces termes. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Vous enverrez un homme pour chacune de vos tribus paternelles, chacun étant chef parmi elles. Ça vous.
D'accord.
Ça vous resitue. Et vous dites que, donc, vous parlez à ce moment-là, qu'une grande frayeur les a gagnés.
Voilà, c'est à la
fin. Et qu'ils ont été gagnés par le découragement.
C'est le moment. Alors là, on a sauté l'étape de Sinaï. On y reviendra. Mais normalement...
Il devait rentrer en Terre Sainte à ce moment-là.
Il devait rentrer en Terre Sainte au bout de 2 ans. C'est un temps de formation, mais pas 40 ans, quoi. Et en fait, ils se sont découragés dans le sens qu'ils ont eu peur du monde. Ils ont manqué de confiance envers Dieu. Et ils se sont dit, bah voilà, ils ont envoyé des explorateurs.
Donc ils étaient aux portes de la Terre Sainte, ils ont envoyé des explorateurs et puis ils ont...
Des espions.
Ils ont eu la trouille.
Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur des habitants, de leur forteresse, de leur... Servien à avoir peur de l'Égypte, en quelque sorte, du monde, quoi. Et alors ça, là, Dieu, qui avait été patient jusqu'à présent, qui avait regardé Israël comme un enfant, en quelque sorte, et l'avait choyé, c'était pas impatienté des coups de gueule, des découragements du peuple, et bien là, se fâche. Et là, il condamne le peuple à errer 38 ans de plus, pour bien comprendre la leçon, ce qui fera 40 ans, les fameux 40 ans...
Pour qu'une génération passe, vous parlez de la génération du désert.
Voilà, cette génération qui n'a pas voulu entrer en terre promise doit disparaître. Autrement dit, ce qui doit disparaître en nous, c'est ce refus, ce manque de confiance en Dieu. On doit le faire disparaître, sinon il n'y a rien de possible. On peut pas construire une relation de foi qui soit pure si on a peur du monde. On ne doit pas avoir peur du monde. Alors il y a le monde et sa technologie, le monde et sa richesse, mais il y a le monde et ses attraits, il y a le monde et ses mensonges, ses illusions. Tout ça, on doit vraiment le dépasser, on doit faire confiance à Dieu. Dieu nous montre un au-delà du monde, cette éternité. Et la terre promise, c'est l'éternité pour le croyant. Donc le désert, c'est le monde et c'est notre foi, où on vit notre foi dans le monde. C'est le désert pour nous, croyants, pour les non-croyants, bah, c'est l'Égypte. Et on est égyptien si on est un non-croyant. Mais l'éternité, l'au-delà de cette vie, eh bien, c'est cette terre promise, mais qui n'est pas de ce monde en réalité. La terre promise là, de l'Exode n'en est qu'une image ruisselante de lait et de miel, de toutes sortes de douceurs, de bonheur. Mais en notre monde, on est sur ce champ de bataille du désert. Et il faut tenir jusqu'au bout, il faut savoir affronter l'ennemi ultime, nos peurs ultimes, il faut dépasser vraiment le monde, il faut savoir mourir à soi-même, c'est la leçon que Dieu nous donne.
Les Hébreux au désert, lecture du livre de l'Exode, c'est pour rappel donc le titre de votre livre paru aux éditions Salvator, c'est une collection à l'intérieur des éditions Salvator, Bible en main. On fait une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve, Père Philippe Play. On va revenir un petit peu en arrière puisqu'on va parler donc du don de la loi à Moïse et des trois ascensions du Sinaï de Moïse, probablement que beaucoup d'entre nous n'ont pas lu avec assiduité le livre de l'Exode, et donc on va découvrir que Moïse en fait est monté par trois fois, lui qui avait une grande curiosité et un grand désir.
Emmanuel Pella.
Les Hébreux au désert, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, donc, nous sommes toujours avec Philippe Lay, prêtre religieux passionniste, donc prêtre installé à Notre-Dame du Cross dans l'Aude et auteur donc d'un ouvrage du même nom paru aux éditions Salvator, Les Hébreux au désert. Si on revient un petit peu en arrière, Père Philippe Lay, donc toujours pour essayer en ce début de carême, cette deuxième semaine de carême, d'éclairer cette aventure dans laquelle on est invité à se lancer, qui est l'aventure du désert. Il y a donc évidemment au désert deux moments clés. C'est le don de la loi au Sinaï et puis c'est les ascensions de Moïse. Pour cela. Alors vous commencez donc, on commencera par le chapitre le don de la loi. Ce chapitre il monte sur la montagne. J'ai découvert à ce moment-là, preuve que j'avais dû lire ça trop rapidement, que c'était aussi une montagne qui était très impressionnante pour les Hébreux, puisqu'elle était plus ou moins en feu, si j'ai bien compris. Et puis surtout, vous avez une phrase qui peut nous parler à nous. Vous laissez entendre en fait qu'il faut arrêter la recherche du bonheur. Il faut d'abord rechercher la vérité et l'amour. Et c'est ce que nous dirait cet épisode. Alors rappelez-nous l'épisode, et si vous pouvez rebondir sur ce passage que je viens de citer.
Alors l'épisode, c'est qu'ils arrivent au Sinaï, et là, le peuple doit rester en bas, et la montagne est embrasée d'un seul coup, la nuée vient reposer sur le sommet de la montagne, il y a un tremblement de terre, il y a surtout des voix terribles comme le son d'un corps, Dieu est là. Et alors, Moïse est invité à monter. Et il va donner la loi, donc le décalogue, hein, et puis toutes les lois, les fêtes religieuses, etc., pour conduire des gens au bonheur. Mais le bonheur, c'est la terre promise. Le chemin qui va y conduire notre vie, c'est la vérité et l'amour. Si on veut tout de suite tomber dans le culte du bonheur, on tombe dans le culte de l'Égypte. L'Égypte cultive le bonheur, recherche le bonheur. On passe son temps, tous les hommes passent leur temps à rechercher le bonheur. En revanche, rechercher l'amour et la vérité, ça c'est typiquement le chemin religieux, le chemin de la foi. Et les commandements sont là pour ça, pour nous éduquer à une recherche, non pas du bonheur. On le trouve quand on pratique quoi ? L'amour, la recherche de l'amour, la recherche de la vérité, dans leurs exigences très concrètes, c'est une décalogue. Hein. Ne pas convoiter les biens du prochain, ne pas commettre d'homicide, de vol, de mensonge, rester fidèle à Dieu, ne pas avoir d'idole. Voilà le grosso modo, le noyau du décalogue que Jésus reprend. Dans la loi, Jésus le commente, hein, c'est chez Matthieu au chapitre 5, sur la montagne lui aussi justement, à un autre Sinaï, et il résume toute la loi et les prophètes, mais la loi au décalogue. Le reste, il ne laisse. Pour Moïse, il y aura aussi tout le reste, comment construire le temple.
Sa fameuse réponse quand on lui demande qu'est-ce qui est le plus important dans la loi, c'est ça?
Voilà, quand
il dit aimer Dieu tout son cœur, toute sa force, toute son âme, et puis son prochain comme soi-même.
Le décalogue, c'est ça qui nous éduque à l'amour et à la vérité.
Alors Père Philippe Lay, puisque le temps avance, dans cette dernière partie qui sera un peu plus courte, parlez-nous pour finir de ces trois ascensions donc de Moïse. Vous pouvez prendre un petit peu plus de votre temps et puis nous dire si nous-mêmes nous sommes appelés à devenir d'autres Moïse, quel parallèle on peut faire avec nos vies en ce début de carême 2020.
Alors, il ne faut pas parler de l'ascension seulement du Sinaï par Moïse, mais des ascensions. Donc il y en a eu trois en fait. Il a fait des allers-retours comme ça. Alors il y en a une première où il reçoit justement le décalogue, la loi, puis une célébration de l'Alliance, puis il remonte pour inscrire dans la pierre cette loi. Et c'est à ce moment-là il y a l'épisode du veau d'or.
Entre les deux, donc entre la première et la deuxième ascension.
Au moment de la seconde ascension.
D'accord.
Au moment de la seconde ascension, Moïse est avec Dieu. Et là, pour mettre par écrit, pour mettre sur les tables de la loi, pour graver dans la pierre et ne pas oublier cette loi que Dieu lui dicte. Et voilà que pendant ce temps-là, les Hébreux se disent « Oh là, ça fait longtemps qu'il est parti.
» Alors qu'ils voient la montagne en feu, non ?
Ils voient la montagne en feu.
Et la nuée sur la montagne.
Et la nuée, mais de loin. Ça ressemble à ces croyants qui se sont habitués à leur foi, qui se sont habitués au sacrement. Ils savent que Dieu existe, comme les Hébreux voyaient la montagne, mais ils s'habituent au paysage et puis ils se mettent à désirer un dieu, une divinité plus proche d'eux. C'est à ce moment-là qu'il y a la Cédie dont vous parliez tout à l'heure. La Cédie nous fait finalement nous détourner de Dieu. Il y a une sorte de, on cesse de le goûter. Vous voyez, c'est une sorte de dégoût, la Cédie. On ne goûte plus la présence de Dieu. On sait qu'il est là, comme la montagne, là, et elle fait du bruit, et elle brille. Mais on recherche un dieu plus proche de soi, c'est le veau d'or. Et Aaron va leur donner ce poison, ce faux dieu, ce veau d'or. Alors Moïse redescend à ce moment-là. Et alors c'est à ce moment-là, le fameux épisode, il brise les tables de la loi, de colère, et il met en poudre le veau d'or, il leur fait manger pour bien leur montrer qu'il n'a aucun goût et que ça ne guérit pas de la Cédie de se forger un veau d'or. Et il va alors être obligé de remonter une troisième fois sur la montagne pour à nouveau, pour graver une seconde fois cette loi dans la pierre. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir Dieu.
Alors, il voit Dieu parce qu'il le demande aussi, non ?
Et parce qu'il le demande. Donc, il y a trois ascensions. Et les trois ascensions, c'est comme le désert, c'est un cheminement, en quelque sorte.
Donc, si on récapitule les étapes, le premier, vous dites, c'est le dépassement de la raison grâce à la révélation divine. C'est les 10 commandements qui sont donnés.
Voilà, il y a un découpage tripartite en fonction des facultés de l'âme. Il y a l'entendement, c'est la première faculté, donc c'est la première ascension.
L'intelligence.
L'intelligence est illuminée. Voilà, c'est la première chose que fait Dieu dans le croyant. La seconde instance, c'est le cœur, c'est la volonté. Et donc là, Moïse va devenir vraiment un pasteur. Il va défendre Israël au moment du veau d'or. Il est sur la montagne avec Dieu, il regarde les choses de haut, et Dieu dit « je vais les exterminer parce que vraiment ils ont la nuque raide ». Nuque raide, ça veut dire un cœur raide, une volonté raide. C'est quelqu'un dont on ne peut rien tirer. C'est très fort, la nuque raide, ça nous fait sourire, nous, comme expression, mais en réalité, c'est ça veut dire qu'une volonté qui n'est pas éducable. Et Moïse défend, comme Jésus le fera plus tard, le peuple et dit prends patience, ne les extermine pas. Donc il devient vraiment, sa volonté devient une avec la volonté de Dieu, car c'était bien la volonté de Dieu que de conduire Israël à la terre promise.
Et
la
donc, troisième, intelligence, volonté,
et la troisième,
c'est la mémoire.
C'est la mémoire, dit saint Augustin, c'est-à-dire
la
conscience profonde. La conscience profonde, vous voyez, mémoire au sens existentiel du terme, c'est ce qui fait ma personnalité. Sans que l'intelligence ait besoin de me la dire, de l'analyser en quelque sorte, la conscience que j'ai de moi. C'est la fine pointe de l'âme, disent les mystiques, le fond de l'âme.
Ça veut dire qu'en voyant Dieu, alors on ne voit pas Dieu face à face, mais quand on entreaperçoit Dieu, en fait on se découvre soi-même, c'est ça ?
Voilà, nos fondements, le fondement de notre cœur, de notre être. Le fondement est éclairé, habité par Dieu. Dieu vient habiter en nos cœurs. C'est ce que opère le baptême, ce que doit opérer le baptême. Et l'Esprit Saint habite en nous par le baptême. Et simplement, il faut nous aussi descendre dans cette profondeur de conscience. Et c'est ce que le désert nous fait faire. Descendre dans cette conscience de l'inhabitation divine de Dieu. Donc inhabitation, Dieu habite en nous-mêmes, dans nos âmes.
C'est là le mode de connaissance le plus profond qu'une créature puisse avoir de son créateur, et le visage de Moïse en restera illuminé d'une manière indélébile, vous dites.
Ouais.
Merci beaucoup Père Philippe Play d'être venu nous accompagner en ce début de carême. J'avais espéré une série d'émissions, mais on se contentera d'une seule émission. Merci pour cette belle émission, et je recommande vivement la lecture de ce livre dont je redonne une dernière fois le titre, Les Hébreux au désert, lecture du livre de l'Exode, paru aux éditions Salvatore, de quoi cheminer à l'occasion de ce carême. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.